Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, un invité et nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, je reçois Rebecca D'Autremer. Bonjour Rebecca.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Rebecca D'Autremer, vous êtes illustratrice et depuis peu auteur de vos livres que vous dessinez. Est-ce que cela vous convient comme présentation succincte?
Écoutez, je crains que ce soit les seules choses que je sache faire, donc oui, il va falloir dire ça, oui, oui.
Et ça dit un peu votre monde, vous trouvez?
Écoutez, je passe 12 heures par jour, 7 jours sur 7, à illustrer, à imaginer des livres. Donc oui, c'est vraiment ma vie.
C'est votre vie.
C'est vraiment moi.
Alors, on se souvient, Rebecca D'Autremer, de vos princesses oubliées ou inconnues, sur lesquelles les fées ne se sont pas forcément penchées et à côté desquelles la Belle au bois dormant fait pâle figure. Vous, par contre, Rebecca D'Autremer, une bonne fée s'est certainement penchée sur votre berceau.
Alors, j'en suis certaine, oui. J'ai toujours eu beaucoup de chance, à plein de points de vue, tout au long de ma vie. Parce que j'ai été soutenue, j'ai fait des belles rencontres, des gens qui m'ont fait confiance. Et chaque jour, je me dis, mais quelle chance j'ai déjà de faire le métier que j'aime, de vivre de ma passion. Donc oui, oui, j'ai eu plein de chance du début jusqu'à la fin.
Vous êtes née sous une bonne étoile.
Bah écoutez, il me semble. C'est pas juste, mais j'en profite bien.
Profitez-en. Alors, vous êtes l'illustratrice du moment. On parle beaucoup de vous. Vous avez reçu de nombreux prix, de jolis prix. Le prix des sorcières, le prix Paille en queue, ça me plaît beaucoup.
Ah oui, c'était à La Réunion, ça fait un petit moment, mais oui, c'est vrai.
Et le grand prix de l'illustration l'année dernière.
Voilà. Oui, récemment. Je suis allée le chercher il y a quelques jours, là, oui, à Moulins. Oui.
Et votre dernier-né se prénomme Jacominus Gainsborough.
Oui.
Il est là, à côté de moi. Vous m'avez apporté un dessin. C'est un petit lapin charmant, tout doux, avec un petit gilet vert tricoté main et une patte un peu folle. Mais un brin de folie ne nuit à personne, comme lui dit sa grand-mère. Et je trouve que vous avez, vous aussi, Rebecca D'Autremer, un vrai brin de folie.
De fantaisie, en tout cas.
De fantaisie. Oui. Rebecca D'Autremer, vous ne vous souvenez pas exactement de la date de votre journée particulière. Et pour cause, c'était à l'automne 1975 et vous n'aviez que 4 ans.
Bonjour, je m'appelle Josiane et aujourd'hui je vais te raconter une histoire pour apprendre à colorier. Le savais-tu? Colorier, c'est pas la même chose que dessiner. Pour dessiner, tu fais ce que tu veux, c'est ta créativité. Mais pour colorier, il y a des lignes et il faut rester dans les lignes. Tu as sûrement déjà entendu un adulte répéter « il faut pas dépasser les lignes ». Alors pour colorier, il faut que le crayon reste dans les lignes. Je vais te raconter l'histoire du fermier pour t'aider à comprendre et à apprendre comment colorier dans les lignes.
Rebecca, voilà commence l'histoire que vous allez nous raconter aujourd'hui. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais c'est ça, les règles sont déjà établies. C'était effectivement à l'école à l'automne 75, j'avais à peine 4 ans. Et j'étais petite élève à la maternelle dans le village de Savines-le-Lac, qui borde le lac de Serponçon, qui est un joli lac artificiel dans la vallée de la Durance, dans les Hautes-Alpes. Je fais un petit peu de promo pour la région où je suis née, parce que ça vaut vraiment le coup de connaître la région. Et j'ai un souvenir assez précis que la maîtresse avait distribué à tous les petits enfants qui étaient là avec leurs petits cols roulés en nylon orange et marron, sûrement, et leurs petites salopettes à carreaux. Elle nous avait donné une feuille à chacun sur laquelle était imprimée à l'encre violette qui sentait bon l'alcool.
Ah oui, avec les machines. Là.
Voilà, il y a l'odeur qui est très caractéristique que les enfants connaissent plus maintenant. Mais donc, elle nous avait distribué une feuille avec un petit canard qui était imprimé et avec la charge de colorier ce petit canard. Alors évidemment, le but était certainement, comme le dit cette dame, de ne pas dépasser. Et je me souviens, je sais pas pourquoi, que j'avais déjà la sensation d'avoir une petite longueur d'avance sur les autres enfants. On avait dû me dire que je dessinais bien, on me dit « Oh Rebecca, tu fais des beaux dessins ». Et donc, je savais déjà que mon dessin, mon coloriage allait être meilleur que les autres. Donc, j'avais déjà aussi choisi la bonne couleur, autrement dit le jaune. Donc, je voyais les autres prendre des marrons ou des canards roses. C'était évidemment très mauvais. Donc, j'avais déjà une longueur d'avance et j'avais entrepris de colorier, je fais des grands gestes là, mais de remplir mon petit canard de jaune. Et pour montrer aux autres enfants que j'étais bien plus en avance, bien plus douée qu'eux, j'avais négligemment continué à colorier tout en regardant par la fenêtre, pour montrer que j'étais capable de faire mon travail sans même regarder. Et alors par la fenêtre, je me permets de dire que ça devait être très beau, puisque l'école était vraiment au bord du lac, et donc j'avais vu sur le lac le pont qui traverse en face de ce village Savines-le-Lac, et en face, il y a les montagnes avec les pics de Chabrières qui sont à la limite du parc des Écrins. Donc vraiment, le spectacle valait le coup, et le coup d'œil, mais pendant ce temps-là, ma main travaillait toute seule, et quand j'ai retourné les yeux sur ma feuille, mon petit canard jaune était épouvantable. J'en avais foutu partout, il baignait dans une grande flaque de pipi, je ne jaune. Sais pas, c'était jaune partout. Et je me souviens de ma stupéfaction d'avoir échoué, et de l'humiliation que j'ai eue à l'idée d'avoir voulu faire si bien, d'avoir voulu dominer la classe et d'avoir merdé lamentablement.
Et vous avez été blessée dans votre orgueil.
Je me souviens de ma stupéfaction, quoi, d'avoir été autant à côté de la plaque. Et je me suis toujours dit, mais là je le dis en tant qu'adulte, peut-être que ce premier souvenir a fait que je me suis dit, plus jamais ça, plus jamais je dépasserai, plus jamais il faudra. Voilà, je me suis mis au boulot. Je pense être quelqu'un qui travaille beaucoup, je suis une bonne bosseuse.
Et vous ne dépassez
peut-être
plus.
Peut-être que, oui, ou quand je dépasse, c'est que je le maîtrise. Mais en tout cas, je ne travaille plus en regardant par la fenêtre, ça c'est sûr.
Maintenant, vous regardez votre dessin. Mais la maîtresse vous avait grondé ?
Alors ça, l'histoire, ma mémoire ne le dit pas, mais je ne pense pas. Peut-être personne, voilà, mes petits copains se sont aperçus de rien, mais j'ai été vraiment extrêmement humiliée. J'avais déjà 4 ans pour être humiliée, c'est un peu tôt.
Et c'est de ça dont vous vous souvenez, oui. C'est de l'humiliation.
Ouais. De l'échec. Je pensais faire si bien et j'avais fait si mal.
Ouais.
J'étais sûre de moi sur ce coup et ça a été tellement catastrophique que ça a été cuisant.
Alors, Rebecca d'Outremer, en 1975, est-ce que vous vous souvenez d'une musique que vous auriez pu écouter, quelque chose comme ça, qui était dans l'air du temps?
Oh là là, c'est quand même un peu ancien. Et je me permets de rappeler qu'en 75, on avait moins de possibilités d'écouter de la musique. Mes parents écoutaient des vinyles ou des... Vous savez, les grosses bandes magnétiques, là, les cassettes géantes.
Ouais.
Voilà. Et alors, je sais plus qu'est-ce que... Mais il y avait beaucoup de musique folklore, un peu hippie, de la musique bretonne, de la musique aussi des Andes. Et il y avait... Je me rappelle de Dick Annegarn et je me rappelle de choses comme ça.
Alors moi, c'est pas ça que je vais vous faire écouter.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Ah ben, vous allez voir. Mais peut-être que vous vous souvenez du refrain qu'on connaissait par cœur à cette époque-là.
My body needs action.
France Inter.
C'était Charla et compagnie. Ça vous dit quelque chose, Rebecca d'Outremer?
Mais alors, j'avoue que j'ai surtout en tête la version d'Henri Salvador qui chante « J'aime, 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 j'aime tes genoux ». Ça vous dit rien?
Ah si, j'aime, si, ça me dit. « J'aime tes genoux » sur le même,
ouais,
sur la même musique.
Que j'avais en vinyle, pour le coup.
Ah, que vous aviez en vinyle. En 1975, Rebecca d'Outremer, le Larzac faisait souvent la une des journaux. La lutte contre l'extension du camp militaire continuait.
Le Larzac ressemble à un désert. Michel Debré l'a déclaré lorsqu'il décida d'étendre le camp militaire. Et pourtant, il y a ici des personnes et des choses qui donnent à réfléchir. Il y a par exemple un village que l'on a bien failli classer avec son château du XVIe siècle. Il y a encore, tenez, un inventeur qui trait ses brebis sur son manège breveté qui lui valut une médaille d'or. Il y a surtout des gens qui se déclarent paysans, la tête haute, quand d'autres se disent exploitants agricoles.
Je crois que si on nous avait considérés au départ comme des hommes et non comme des domestiques ou moins que ça encore, eh bien aujourd'hui on n'en serait pas là. On nous a beaucoup trop méprisés, beaucoup trop ignorés. On a toujours dit le Larzac, ça n'existe pas, c'est des gauchistes qui sont sur le Larzac, c'est tout ce qu'il y a. Hein, et l'apprendre par la télévision froidement comme ça que c'est décidé, l'extension du camp va être faite de 3000 à 17000 hectares, ça c'est une chose qu'on n'a pas pu l'accepter. On a dit non, on est des hommes et on restera debout.
Après mûre réflexion et bien des réticences, les paysans du Larzac ont décidé de passer dans l'illégalité, en labourant pour ensemencer des champs achetés par l'armée ou en occupant par non-violents interposés des fermes à l'abandon que ces derniers ont rendues habitables, fermes qui appartenaient depuis peu aux militaires.
Il est évident que face à des décisions qu'en conscience nous pensons être mauvaises, eh bien la loi pour nous devient seconde. Si vous voulez, il y a pour nous cette différence entre la légalité et la légitimité.
Rebecca d'Outremer, vos parents parlaient du Larzac.
Alors, je ne sais pas si... Sûrement. Mais c'est marrant, je me souviens bien de la voix de ce journaliste. C'était en 75,
ouais,
ça
c'est un reportage de 1975.
Cette voix-là ne paraît pas si lointaine que ça.
1975.
Bon, alors, mes parents en parlaient sûrement. Mais en tout cas, moi, avec mes parents, je suis allée garder les chèvres dans les années 70. Mais c'était dans la Drôme. Donc c'est vrai que je me souviens très bien de cette ambiance.
Pourquoi des chèvres? Vos parents avaient des chèvres?
Oui, mon père avait entrepris avec son frère d'imaginer une exploitation d'élevage de chèvres et de fromage, etc. Et donc, dans ma toute petite enfance, à 4-5 ans, j'ai passé quelques mois dans la Drôme. J'allais pas à l'école et on s'occupait des chèvres, des chevreaux. On allait garder, j'allais garder les chèvres avec le jeune berger. Et j'ai des souvenirs merveilleux de campagne et d'une enfance très champêtre, quoi, et très libre.
Et c'était bien de pas aller à l'école?
Oui, c'était dur d'y aller après, surtout. J'ai souffert les premiers mois d'école.
À quoi ressemblaient vos parents? Quelle image vous avez de vos parents quand vous étiez enfant?
Ils étaient beaux.
Ouais.
Déjà, ils sont toujours beaux, mais... déjà, quand je suis née, mes parents avaient 20 ans. Je crois que j'étais pas trop prévue au programme. Mmh. Et donc, ils étaient extrêmement jeunes. Et quand on revoit des photos, on voit vraiment des enfants avec un enfant. Mais tout en étant très responsable et très vite, ils ont dû. Mon père m'a souvent parlé quand il m'engueulait de petits beefsteaks qu'il fallait bien qu'il me trouve, petits beefsteaks. Et mon père avait choisi de suivre une voie que lui dictait pas forcément sa famille, mais mon père était d'une famille de militaires justement, donc le Larzac, il devait en parler avec une certaine couleur. Et mon père avait choisi de travailler de ses mains, il aimait travailler le bois et il est devenu charpentier. Et puis après, il a eu une entreprise de charpente. Et ma mère le suivait, il a assisté à travailler avec lui. Donc il était très manuel, il ressemblait, il avait les cheveux longs, toujours torse nu. Et j'ai cette image-là
magnifique
de mon père. Ouais.
Qui ressemblait à Patrick Devers.
C'est ça. Mais je crois que tous les jeunes hommes ressemblaient un peu à Patrick Devers à ce moment-là.
Et votre mère à Princesse Leïla?
Oui, parce que j'ai retrouvé une photo récemment où je suis toute petite. Je vois mes parents tellement jeunes avec moi bébé et je me suis aperçue, alors que je sais que j'étais pas trop donc prévue au programme, et ils ont l'air heureux de m'avoir dans leurs bras, et ça m'a beaucoup touchée. Et effectivement, ma mère a deux grandes nattes sur les oreilles comme Princesse Leïla.
Comme on avait dans les années 70.
Bah c'est ça, les macarons.
Ouais. Ah, donc, à l'automne 1975, Rebecca d'Outremer, vous n'aviez que 4 ans et pourtant vous vous souvenez de votre premier coloriage. Et depuis, Rebecca d'Outremer, vous n'avez jamais cessé de dessiner depuis ce premier souvenir. 12 heures par jour, vous le disiez, 7 jours sur 7. Vous n'avez pas beaucoup de souvenirs d'enfance, mais par contre, vous avez des souvenirs de vos dessins, Rebecca d'Outremer. Et après le canard jaune, il y a eu ça.
Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. Le vrai musicien répète avec ardeur de savante gamme et des arpèges. Mais il faut qu'il sache que sa voix doit sortir du cœur en chantant ses gammes et ses arpèges. Si nous voulons chaque jour les pratiquer, nous verrons nos progrès vite encouragés. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, fa, la, do, répétons nos gammes et nos arpèges.
Alors là, qui va chanter derrière ?
La maman.
La maman qui est ?
Duchesse Blanche, la jolie chatte blanche.
Que vous avez dessinée ?
Oui, c'est un souvenir un peu plus tard, je pense quand même, mais je me rappelle avoir recopié, j'avais un livre des Aristochats, et je me rappelle avoir recopié la belle tête de Duchesse avec ses deux touffes de poils sur les côtés.
Et son collier autour du cou.
C'est ça.
Alors et après, quel souvenir vous avez de dessin ? On va tirer le fil comme ça.
Alors,
ensemble, Rebecca d'Outremer, votre première BD ?
Oh là oui, ça j'ai un des souvenirs très précis. J'avais 7 ans et j'avais proposé à une petite copine, mais qui m'a lâché très vite en cours de route, de faire une BD. C'était le grand truc de faire de la BD. Et j'avais entrepris d'écrire une histoire et de faire au crayon de couleur. J'ai fait 7 pages, je crois, et c'est quand même assez conséquent. Et l'histoire s'appelait « Le mystère dans la poubelle ».
Ça parlait de quoi ?
Ça parlait d'une petite fille qui s'apercevait que son institutrice était en fait un terrible bandit, son instituteur je crois, et qu'il cambriolait des bijouteries et qu'il avait creusé un tunnel entre la bijouterie et la classe d'école. Et il y avait un tunnel où les complices de l'instituteur mettaient les bijoux dans la poubelle de l'école. Et quand la poubelle tournait, c'était que le cambriolage était fait. Et à ce moment-là, l'instituteur pouvait récupérer le magot.
Vous l'avez gardé, cette...
Mais oui, je sais que je l'ai, mais ça fait plusieurs années que je cherche et j'arrive plus à remettre le...
Tellement vous avez de dessins, de carnets,
ouais,
un peu partout.
Dans mon bazar, dans la maison de mes parents.
Là, vous êtes arrivé, vous êtes venu avec vos carnets, vos dessins.
Avec quelques carnets, un de mes plus vieux carnets de croquis.
Alors ça, c'est un carnet qui date. Ouais. C'est le noir, là, que vous avez devant vous. Ça date de quand ?
C'est un vieil agenda 1985 de produits métallurgie et quincaillerie générale.
Donc 85, vous avez 15 ans ?
J'avais 13-14 ans.
13-14 ans.
Et chaque soir, c'est ce que je dis souvent quand je rencontre des enfants dans les écoles, etc., qu'on n'avait pas la télé, pas Internet, pas rien de tout ça. Pas de téléphone, de snap, de chat, de trucs. Et moyennant quoi, on avait un temps infini pour faire autre chose. Et tous les jours, le soir, avant de m'endormir, je faisais un petit dessin. Alors c'est affreux, hein, mais...
Au crayon bic bleu.
Au stylo bille. Et ce qui est curieux, c'est qu'à chaque fois, je mets une petite phrase pour accompagner. Et sans m'en rendre compte, j'étais déjà dans l'illustration. J'avais déjà un rapport. Par exemple, gros balèze faisant un bras de fer à un maigrichon. Alors c'est ce qu'on peut voir, c'est clair.
Avec deux hommes assis sur un tabouret.
Il y en a d'autres. Alors là, c'est de la BD. Donc vous avez une dame avec un manteau très chic qui dit « Ah, c'est donc vous le nouveau chauffeur, mais vous me paraissez bien jeune. Oui madame, j'ai 16 ans. » Bonhomme qui s'aperçoit qu'il s'est embarqué dans un chousse et qui ne peut plus s'arrêter.
Faites voir.
11 mars 85.
Elle est pas mal. Moi, j'aime beaucoup le sapin derrière. Il y a la panthère rose à côté.
Oui,
je peux fêter.
Allez-y.
C'est pas...
Jusqu'en juillet, vous avez un dessin chaque jour.
Robe ancienne moderne. On s'admire. C'est une princesse devant
avec pas mal
des miroirs. Il y a pas mal
belles
de princesses.
Robes et tout ça, quand même, ouais. Et puis, il y a des commentaires. C'est mauvais, c'est raté.
Ne bouge pas,
là, c'est beau.
S'il te plaît. Beaucoup de femmes, de manteaux.
Oui, je faisais beaucoup de couture quand j'étais enfant. Je cousais mes propres habits.
Ouais.
J'étais donc autrement dit habillée avec des gros sacs à patates, mais j'adorais ça, donc j'en dessinais beaucoup.
Donc des princesses, aussi bien un univers enfantin, de princesses, de...
Ah, il y avait des histoires, on voit qu'il y a des couples qui se baladent, il y a des petites tensions...
Une bonne qui explique à l'enfant qu'elle garde qu'il ne faut pas toucher le chien quand on le connaît pas.
C'est bizarre, hein ? Je sais pas d'où ça venait, mais en tout cas à chaque fois c'est accompagné très souvent d'une petite phrase...
Gouvernante anglaise, 19e siècle, râleuse. Et elle a la tête d'une
râleuse. Elle a vraiment l'air d'une gouvernante anglaise.
Vous dessinez ça et vous dessinez quoi d'autre ? Vous avez 13-14 ans, vous écoutez de la musique, je crois que vous écoutez du métal, non ?
Mais oui, mais c'est parce que je veux justifier ce choix. C'est
ouais.
Parce que j'avais eu un premier petit ami qui effectivement écoutait beaucoup de métal, donc moi j'étais... j'étais disciplinée, non, je m'étais mis à m'intéresser au métal. Et effectivement, je sais pas si mon goût a duré très longtemps.
Vous avez dit non. Vous rougissez ?
Oui, j'en rougis. Donc ça, c'est Scorpion.
Non, c'est Iron Maiden.
Ah, c'est Iron Maiden. Seven Son of the Seven Son.
Ouais.
C'est pas cet album-là ?
Si, je crois.
Mais
peu
ils
importe,
avaient des
ça
belles pochettes.
Un peu.
Écoutez, ah oui, j'avoue, je confonds un peu. Mais ils avaient de très belles pochettes, très travaillées, avec des trucs très gothiques, là. Et
vous aimiez et dessiner
j'aimais
ça.
Oui, déjà, il y avait un intérêt graphique. Voilà.
Et puis, vous avez un peu honte, je vous sens
un peu
gênée.
Non, c'est-à-dire que j'ai un peu mis ça derrière moi. Mais c'était quand même, c'est des bons souvenirs quand même. Ce qui est marrant, c'est que j'écoutais du métal, comme, voilà, ce genre de truc, tout en dessinant des princesses à froufrou.
Ouais, c'est
pas incompatible.
Non. Vous étiez dans ces deux
c'est
mondes-là.
C'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Je peux très bien dessiner un petit lapin adorable et écouter des horreurs de faits divers ou des histoires...
Des choses plus sombres.
Ouais, j'aime bien mélanger les genres.
Des chansons sombres, un peu bizarres, un
oui,
peu étranges.
Oui. Mais là, c'était le début de ce mélange, de ce joyeux mélange. Ouais.
Dites-moi, Rebecca D'Outremer, si je comprends bien, depuis que vous êtes enfant, depuis vos 4 ans, vous faites vos gammes d'une certaine façon. Vous savez, c'est Matisse, c'est Henri Matisse qui disait que tous les matins au réveil, il faisait ses gammes.
Alors, c'est juste, c'est ce que je dis souvent quand les jeunes gens, les jeunes qui espèrent devenir illustrateurs ou qui se lancent dans une discipline artistique, me disent alors quel conseil donnez-vous aux plus jeunes? Et mais le dessin, c'est vraiment comme le piano, il faut exercer sa main, il faut pratiquer, il y a un minimum d'heures de pratique pour se chauffer, quoi. Donc oui, je pense que le talent vient plus de la pratique, de l'énergie qu'on va mettre sur le long terme, qui fait qu'on va développer un dessin meilleur, une vue et un jugement meilleur sur sa production, plutôt qu'un talent qui tomberait du ciel, qui existe peut-être pour certains. Je suis pas sûre d'avoir été concernée là-dedans. Ce qui est sûr que le don que j'ai eu, moi, c'est d'être tellement passionnée que j'ai dessiné, mais tout ce que je pouvais.
Et alors, est-ce qu'il y a des images qui vous ont nourri?
Il y avait des quelques illustrateurs, mais bon, allez, dans les années 70-80, mes parents avaient pas trop de moyens, et puis on avait quand même beaucoup moins de choses. Enfant, déjà, on avait tout ce qui était multimédia, ça n'existait pas, donc les images venaient des livres,
ouais.
Et on avait quelques livres. Donc c'est vrai que j'ai des livres qui ont marqué mon enfance, ça, j'aurais dû vous l'apporter. J'aimais beaucoup les illustrations d'un monsieur qui s'appelle Philippe Dumas, que les illustrateurs doivent connaître, qui était un peu dans l'air du temps, de cette époque. Un dessin à la plume et juste des petites touches d'aquarelle très jolies. Il avait illustré, entre autres, les contes bleus et les contes rouges du Chat Perché, de Marcel Aimé, qui est une histoire que j'aimais beaucoup. Et puis, dans ma plus petite enfance, j'ai souvenir des livres de la comtesse de Ségur, de la Bibliothèque Rose, mais moi j'avais les versions anciennes, c'est ça que j'aurais dû vous apporter. Ces livres en tissu rouge, avec
un
fer à doré, et les gravures un peu à la Gustave Doré.
Oui, c'est ça.
Très clair-obscur, très théâtral, et ça c'était vraiment beau, j'adorais. Mais ça, c'était pas reproduisible,
non.
La gravure. Mais...
Et puis il y avait le monde de Beatrix Potter aussi.
Oui, ça c'est... J'avais moins, mais c'est vrai que j'aimais ça. Mais c'était plus bourgeois, ça. J'avais moins ça à la maison. Et après, je l'ai découvert et ça m'a inspiré des choses pour les livres que j'ai fait récemment.
Même si votre monde à vous, Rebecca D'Outremer, est plus sombre, encore une fois, plus bizarroïde que
j'aime
ces
bien,
personnages de Beatrix Potter.
Oui, chez Beatrix Potter, tout est à la bonne place. Le petit lapin, il est super mignon, sur sa petite chaise super mignonne, dans son petit jardin super mignon. Le rosier est juste bien et si la barrière du jardin est cassée, elle est cassée au bon endroit.
Ouais.
Et ça fait joli. Et c'est vrai que tout est doux, même si c'est épouvantable. Hein, le Peter Rabbit de Beatrix Potter, son papa s'est fait manger quand même par Monsieur McGregor.
Ouais.
C'est affreux.
Pierre Lapin.
Mais moi, j'aime bien quand il y a un petit caillou dans la chaussure.
Oui, c'est ça.
De dire ça. J'aime bien quand il y a un petit truc qui coince, quand les princesses sont borgnes ou quand le petit lapin a une patte cassée. J'aime bien qu'il y ait ce petit côté sombre. Ouais.
Un peu bancal.
Voilà, il faut que ça boite un peu.
Faut que ça
Sinon,
boite.
Sinon, c'est louche.
Ouais. Faut que ça boite et que ça soit foisonnant.
Oui, aussi.
plein de personnages.
Quand j'étais enfant, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais j'aimais beaucoup, il y avait dans la maison de mes parents des reproductions des tableaux de Bruegel, notamment cette scène de chasse où on voit des hommes s'approcher à travers un bois très sombre et derrière il y a les chiens qui les suivent et derrière il y a le village avec tous les petits personnages et leurs petits patins sur un lac, etc. Et j'adorais regarder ça. Et c'est vrai que très modestement, après j'ai eu envie de faire des tableaux où les gens puissent passer du temps dessus et découvrir des petites histoires dans l'histoire, des petits personnages qui font ceci, cela.
Ben justement, écoute.
Voici le pays de Cocagne, de Bruegel. Formant le centre du tableau, un arbre ceinturé d'une table rustique où s'étalent des pâtés en croûte, un chapon rôti, des pièces de gibier. Trois ripailleurs étendus au pied de l'arbre, terrassés. Un soldat rouge couché en chien de fusil sur sa lance. Un paysan au large dos qui ronfle sur son fléau. Un professeur affalé dans sa pelisse, à côté de ses livres, qui rêve, les yeux ouverts, la braguette délacée. À gauche, un mystérieux guerrier casqué sous un auvent à la toiture de galettes de crème. Une échappée sur un vaste horizon baigné d'un jour laiteux. Émergeant d'une colline, comme un rat d'un sac de farine, un rusto atterrit en pays de Cocagne. Et voici les menus détails insolites, saugrenus, merveilleux, où transparaît l'influence de Jérôme Bosch. Le parapet de saucisse, le cochon entamé qui folâtre un couteau dans la panse, la coquille d'œuf qui danse sur ses petites jambes ensorcelées. Ne cherchons pas à percer ces obscurs symboles.
Vous la connaissez, cette peinture, oui, Rebecca,
oui,
d'autre
mère. Je vois le cochon avec son couteau dans le dos.
Et vous voyez tous ces détails, oui, saugrenus. Oui. Vous aimez le saugrenu, c'est un, oui, mot qui vous va bien.
Oui, les petites surprises, oui, j'aime bien. J'aime bien ça. Que tout ce qui, le premier regard, les choses peuvent être lisses, et puis derrière, paf, il y a, c'est ça, le monsieur avec sa braguette ouverte.
Ouais.
Et dans les tableaux de Bruegel, il y a plein de choses comme ça. Il y a toujours un couple en train de se bisouiller par la fenêtre, ou un monsieur qui fait pipi derrière l'arbre. C'est génial, ça. C'est ce que j'aime faire quand je peux dans mes dessins. Les petites mouches, les petits cafards qui se glissent dans la manche. C'est ça que j'aime bien glisser.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt. Aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour aigrit. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu. Sublime décadence, la danse dépense. Ministère de la bière, artère vers l'enfer. Place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit.
Rebecca d'Outremer, on écoutait Dick Hennigan chez vous.
C'est beau, hein?
C'est beau. Ouais. Ouais, on connaissait tous ces paroles par cœur.
Mais il a fait plein de trucs derrière. Il y a plein d'albums à écouter. J'écoute encore.
En 1975, il y avait un groupe qui faisait un tabac. Ils étaient très souvent invités dans les festivals de musique, à la télé, à la radio, dans les archives. Ils sont partout. En 1975, porte-parole de la résistance chilienne contre le général Pinochet. On les acclamait, on les adorait et on chantait avec eux leur plus grand succès.
On a choisi la plus importante chanson de notre répertoire actuel pour finir cette soirée. Ça va, attention, hein, ça va s'écouter à la radio après. Hein. Oui, c'est vrai. On a pris comme refrain de cette chanson le mot d'ordre du peuple chilien: El pueblo unido jamás será vencido. C'est ce que veut dire en français: le peuple uni ne sera jamais vaincu.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar.
Les Quilla Payun, Rebecca d'Outremer.
J'adorais. Ouais. Mais c'est drôle parce que quand j'écoutais ça enfant, mes parents écoutaient. C'était la mode, toute cette musique des Andes, due aussi aux événements politiques en Amérique du Sud. Mais moi, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et en plus, je parlais pas un mot d'espagnol. Maintenant que je parle un peu plus espagnol, je réalise ce qui se disait dans ces chansons et la gravité de la situation à l'époque. Et j'ai découvert, du coup l'histoire m'a fascinée d'autant plus, j'aime bien écouter des documentaires sur cette période.
Et sur le Chili.
Oui, ça m'a fascinée cette histoire, j'avais pressenti dans des chansons qu'on entendait, mais j'avais pas d'explication moi enfant, je m'en rendais pas compte.
Mais vous chantiez ça, El pueblo unido jamás será
vencido? Oui, je me souviens d'une chanson, qui disait Pido Castigo, j'exige un châtiment,
De Quilla Payun aussi?
Oui, mais je me dis, mais pourquoi il dit ça ce monsieur? Il avait des bonnes raisons de le dire.
France Inter. Zoé Varié. Une journée particulière.
Jusqu'à 15h, c'est la journée particulière de l'illustratrice et auteure Rebecca d'Outremer. C'était donc à l'automne 1975 que vous aviez dépassé en coloriant un petit canard jaune que votre maîtresse vous avait donné. Mais Rebecca d'Outremer, vous vous souvenez encore d'une autre journée. Vous auriez pu choisir une autre journée particulière. C'est 30 ans plus tard, en 2006, et il s'agit encore d'une histoire de coloriage.
Ah oui, il y a quelques années avec mes enfants, je pense, ouais, que vous faites allusion à cette très belle journée. Alors c'était il y a quelques années, mes enfants qui sont plus grands maintenant avaient entre 5 et 8 ans. Et j'étais absolument débordée de travail, comme je suis souvent l'été, puisqu'on finit toujours nos albums pour la rentrée de Noël. Et j'avais mes trois petits avec moi, et mon mari n'était pas là pour m'aider cette fois-ci. Et j'avais cherché à leur donner des exercices pour qu'ils me fichent la paix en fait. Et alors leur grand truc, toujours pareil, c'était: maman, mais comment tu fais pour dessiner? Comment tu fais pour pas dépasser? Et je leur avais dit: écoutez les gars, si vous voulez ne pas dépasser, vous allez y arriver. C'est une question de volonté. Et donc je leur avais dit: voilà ce qu'on va faire. Vous allez me colorier, vous allez me dessiner un petit haricot sur votre feuille. Donc un tout petit machin, un gros comme un haricot. Je vais vous donner à chacun de la peinture rouge et un pinceau tout neuf. Vous allez remplir ce petit haricot de rouge parfaitement, sans le moindre défaut, sans dépasser. Et je vous jure que vous allez y arriver, mais on prend le temps que vous voulez. On peut y passer deux jours si vous voulez. Et pour les aider à les motiver, alors je vais passer pour une très mauvaise mère, j'avais inventé l'histoire suivante. Je leur avais dit, voilà, imaginez que vous êtes enfermés par un très méchant roi dans des oubliettes d'un château sordide. Et que le roi vous a dit, vous sortirez des oubliettes et je vous donnerai à boire et à manger quand ce petit haricot sera parfaitement peint. Et je leur ai dit, écoutez les gars, il faut vraiment, c'est une question de vie ou de mort, de pas dépasser. Si vous ne croyez pas que c'est une question de vie ou de mort, vous pouvez pas y arriver. Alors bon, c'est évidemment, ils comprenaient le second degré, c'est petit. Et ils se sont amusés vraiment à s'impliquer dans cette histoire. Et je revois encore ma petite fille qui avait 5 ans, la plus petite, June, qui était là toute rouge. On était au mois d'août dans les Alpes. Elle avait chaud, elle transpirait, elle avait les cheveux tout collés sur son front. Puis elle me disait, ah, je vais mourir. J'ai dépassé. Et puis elle demandait à ses frères et sœurs, tu crois que je vais mourir? Ah oui, tu vas mourir. Bon, alors j'y retourne. Et ils ont passé 3-4 heures à peindre un petit haricot.
Haricots. Cueillis des haricots. Coupés du trèfle.
Et comment se fait-il que l'âne n'ait plus que deux pattes, que les bœufs n'existent pas, et que notre bon grand cheval est à présent la taille dans la peine 3 semaines?
Allons, la vérité, tout de suite.
Les petites, qui ne connaissaient pas encore la terrible nouvelle, en furent atterrées. Mais elles comprenaient trop bien ce qui s'était passé. Ce matin, elles avaient peint d'une si grande ardeur que leur façon de voir s'était très vivement imposée à leur modèle. C'est ce qui arrive assez souvent quand on peint pour la première fois. De leur côté, les bêtes avaient pris les choses trop à cœur et, en rentrant à l'écurie, blessées dans leur amour-propre, elles avaient si bien ruminé les incidents du pré que ceux-ci devaient rapidement imprimer à la réalité une figure nouvelle.
Vous faites vos têtes de bois, hein?
C'est bon. Faites vos têtes de bois.
Nous allons chercher le vétérinaire.
Alors, les petites se mirent à trembler. Ce vétérinaire était un homme extraordinairement habile. On pouvait être sûr qu'après avoir regardé les bêtes dans le blanc des yeux et palpé leurs membres et leurs panses, il n'allait pas manquer de découvrir la vérité. Il semblait aux petites l'entendre déjà.
Tiens, tiens, j'aperçois tout ceci comme une maladie de peinture. Quelqu'un aurait-il par hasard fait de la peinture ce matin?
Il n'en faudrait pas davantage.
Rebecca d'Autremer, vous avez reconnu ce
Oui, c'est Delphine et Marinette.
Ouais, c'est ça.
Je reconnais à la méchanceté des parents.
Des Contes du chat perché, ouais. De Marcel Aimé. Et ça, c'était un épisode qui s'appelle Les boîtes de peinture, où il est question de la représentation. Qu'est-ce que ça veut dire de représenter? Est-ce qu'on représente ce que l'on voit? Ou est-ce qu'on le représente comme ça doit être? Et puis, plein de questions qu'on se pose quand on dessine. Comment on fait du blanc sur une feuille blanche? Comment on fait une sauterelle verte dans une prairie verte?
Ben oui, après, il faut se poser toutes ces questions quand on se met. Comment on fait du blanc sur une feuille blanche? Vous voulez que je vous le dise?
Ouais, je veux dire.
Il faut surtout pas peindre en blanc. Il faut garder le blanc du papier. La lumière vient du papier. C'est comme ça que c'est beau.
Et comment on fait une sauterelle dans un pré vert? Pour qu'on voit quand même la sauterelle.
L'important, c'est le nord, le contraste. Les verts, il y en a des milliers. On trouve toujours une solution. Avec la lumière et l'ombre, on s'arrange toujours.
Et là, dans cet épisode, il est question de... Le dessin transforme la réalité. La réalité est transformée par le dessin. Et je me disais, est-ce que vous aussi, Rebecca d'Autremer, en dessinant, vous transformez la réalité?
Je m'en soucie pas beaucoup de la réalité. Je sais qu'il y a des illustrateurs qui vont faire très attention de mettre les bons costumes aux bons endroits, aux bonnes époques. Moi, ce que j'aime, c'est m'en inspirer, me nourrir évidemment de tout ça. Et après, j'oublie ce que j'ai vu, j'oublie mes références et j'habille les gens comme je veux, à l'époque que je veux.
Et là, en me parlant, vous regardez Jacominus qui est là sur la table.
Je pensais à une critique qu'on m'a fait sur ce petit Jacominus récemment qui est très drôle. Je peux vous la raconter.
Dites-moi.
Mais donc ce petit Jacominus, c'est un petit lapin qui, à un moment, est amené à partir sur un bateau.
Ouais.
On voit que c'est un peu guerrier, on ne sait pas trop, c'est une idée de guerre. Et je lui ai mis un petit costume avec un pantalon rouge, avec une raie bleue sur le côté, qui évoque un peu les costumes de l'armée en 14, je pense. Et j'ai eu une critique d'un vieux monsieur Ronchon, quand même, là, on peut le dire, qui me dit... Mais ce petit lapin a le pantalon garance des unités combattantes de la guerre de 70. Or, il a une patte cassée. Jamais l'armée n'aurait employé un handicapé pour partir à la guerre. Mais ce qui est drôle, c'est que le monsieur n'a pas fait attention que c'était un lapin. Donc ça ne le dérange pas qu'un lapin parte dans l'armée.
La guerre.
Mais le fait qu'il n'ait pas la bonne couleur de pantalon, ça l'a beaucoup gêné.
Ouais, elle est très jolie.
Et c'est très très drôle. Finalement, le livre a bien fonctionné avec ce monsieur. Il s'est fait avoir quand même.
Alors moi, j'ai un coup de cœur évidemment pour ce Jacobinus Gainsborough, ce joli petit lapin. Et je me demandais, c'est vraiment un lapin qu'on a envie de prendre dans ses bras? C'est un lapin qu'on a envie de toucher? C'est un doudou?
J'ai tout fait pour.
Et ben comment on fait la douceur? Parce qu'on l'imagine doux.
Alors déjà, c'est vrai que je voulais, c'était un de mes objectifs en créant ce personnage, qu'il soit vraiment mignon, mais au premier degré. Vraiment, qu'il n'y ait pas... Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien glisser un peu des peaux de banane et les cafards dans les manches, mais je voulais qu'il y ait une vraie douceur du personnage, de toute façon. Et donc, je l'ai travaillé. Alors, évidemment, la douceur, elle est physique aussi, parce que je dessinais poil à poil tout la fourrure du petit lapin. Et donc, en se donnant un peu de mal, je fais les gestes, là, tous les traits qui sont chacun des poils. C'est vrai qu'on finit par avoir quelque chose de très doux.
Combien il y a de poils? Parce que là, d'un seul coup, je regarde, c'est des milliers de poils que vous avez dessinés.
Autant de poils sur le dessin que de poils sur la tête d'un lapin. Et j'ai testé la douceur et la mignonité, je ne sais pas comment dire, de mon personnage. Je prenais en photo mes dessins et je montrais aux gens comme ça, qui n'avaient rien à voir avec le boulot, en leur disant, tiens, regarde, je leur mettais mon petit lapin sous le nez et j'attendais vraiment la réaction de, ouh, qu'il est mignon. Et je montrais à des vieux monsieur ronçons et tout ça, ou des vieilles gouvernantes anglaises. Et quand elles disaient, ouh, c'est mignon, je me disais, ah, ça, j'approche du but.
Alors Jacobinus Gainsborough, maintenant, on le porte en nous. Moi, je le porte parce qu'il me ressemble, il nous ressemble. C'est-à-dire qu'il a une vie banale, mais qui valait rudement la peine d'être vécue.
C'est ça.
La vie, parfois, a été méchante, puis gentille avec lui. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, c'était une vie de petit rien.
C'était le choix que j'ai fait. Je voulais raconter une vie du début, donc des premiers instants, jusqu'à la fin de la fin. Je voulais aussi parler de tous les aspects de la vie. C'est très ambitieux, hein, mais en quelques pages, mais... Des mauvais moments, des moments meilleurs, de la mort, et des joies, et de l'amour, et des déceptions, et des frustrations, et des complexes, et tout ce que vous voulez, qui font la vie d'un homme, de tous les hommes, je pense. Alors, il se trouve que c'est un lapin, mais ça n'est pas évoqué dans le livre. Et je voulais parler de tout ça. Et ne pas, par exemple, ce que je voulais, c'était parler de la mort à un moment de la vie, parce que ça fait partie de notre vie, évidemment, sans pour autant faire un livre sur la mort. Ou parler de l'amour sans faire un livre sur l'amour. Et c'est souvent ça qu'on fait, qu'on destine aux enfants. Et je trouve que c'est dommage de choisir un sujet, de s'y cantonner. Là, c'était la vie.
À la fin, on le voit mort, Jacobinus. Il est allongé, en tout cas.
Oui. Et... Ah, mais oui.
J'avais pas compris qu'il était mort à la première lecture, parce qu'il est allongé avec sa béquille.
Je l'avais oublié. Mais c'est vrai, on le voit, il est allongé avec son petit bouquet sur le ventre.
Ouais. Les paysages sont magnifiques, enfin bref, c'est magnifique. Et là, justement, c'est pour ça que je vous ai reçu, c'est parce que vous avez fait une aventure de Jacobinus, qui est un livre découpé.
Midi pile, c'est le livre qui est sorti il y a une semaine.
Mais c'est un livre découpé, comment c'est possible? C'est de la dentelle, ce livre?
Alors, c'est un livre un peu théâtre. Toutes les pages sont découpées, il y a plus de 200 pages. Et l'ensemble des pages est découpé, ce qui fait qu'il y a un espace qui est creusé dans l'épaisseur du livre et qui recrée comme 100 décors de théâtre les uns derrière les autres. Et en avançant dans le livre, on traverse, en le lisant, mais aussi on traverse physiquement le livre pour aller jusqu'à la dernière page du fond qui se voit dès la première, en fait. Faut le voir pour le comprendre, ce livre-là. Et c'est découpé au laser, donc il y a une possibilité de découpe de finesse infinie.
Ouais. Faut le voir pour le croire.
Moi, je crois bien, ouais. Faut l'ouvrir.
J'aime être stone avec toi, j'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
En 1975, Rebecca, d'Outre-mer, quand vous aviez 4 ans et que vous dépassiez en faisant votre petit canard jaune, Valéry Giscard d'Estaing était président de la République, Margaret Thatcher venait de prendre la tête du Parti conservateur britannique et Franco mourait à l'âge de 83 ans. En 1975, André Sakharov recevait le prix Nobel de la paix, la loi Veil autorisant l'avortement était promulguée en France et Pier Paolo Pasolini était assassiné sur une plage près de Rome, en Italie. En 1975 aussi, Bernard Pivot débutait son émission Apostrophe. Coluche était à l'honneur à la télévision avec son schmilblick. En 1975, Gérard Lenormand chantait la ballade des gens heureux. Et Pierre Perret chantait le
Zizi.
Et oui. Et Il était une fois chantait ça.
J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux, elle est faite pour moi.
Alors pour vous c'est horrible ça. Là vous dites oh mon Dieu quelle horreur, c'est ça?
Non 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 mais j'écoutais volontiers. C'est tout le comment on appelait ça quoi, le top 50.
Ouais, je sais pas les tubes. Les tubes.
Daniel Balavoine qui chantait le premier truc.
En 75.
Ah non 75. Ah c'est si tôt que ça.
Ça c'est 75.
Ah c'était, je me souviens. Ceci dit, Daniel Balavoine c'était en 78 je crois, je dirais.
Il chantait quoi?
Je suis pas loin du compte. Je me la première chanson. Je me présente, je m'appelle Henri.
Ah
da,
oui.
Da, da.
Et les filles c'est se ça, jettent
ça,
sur moi.
C'est ça. Ouais. C'est ça, les pauvres filles, elles ont souffert un peu dans les chansons à cette époque-là.
Rebecca d'Outre-mer, c'est Hugo Comble, l'assistant de l'émission, l'attaché de production de cette émission, qui a trouvé cette archive à l'INA. C'est quelqu'un qui parle du dessin, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler du dessin, c'est Roland Barthes. Écoutez.
Dessiner, le terme d'abord est impropre, parce que ce que je fais, à des moments perdus, d'une façon très anarchique et très libre, ce sont pas vraiment des dessins, c'est plutôt c'est un mélange, disons, de coloriage et de graphisme, d'écriture. C'est une chose qui m'est venue très tardivement. Je dirais jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, jamais je n'aurais osé manier un crayon, et même dans les réunions, les assemblées où il est classique de faire des graffitis pour moins s'ennuyer, je n'osais même pas avoir ce geste. Et puis, je me rappelle très bien, si je peux dire, c'est une anecdote enfin purement biographique, mais quand je suis à la campagne pendant l'été, je ne peux pas, disons, lire et écrire tout le temps. C'est pas possible, le corps s'y refuse. Alors, comme au fond, je ne fais pas de sport, je reste volontiers à la maison, alors j'avais eu l'idée de m'astreindre un peu chaque jour à copier des images, simplement pour le plaisir du geste manuel, un peu comme autrefois, disons, les hommes eux-mêmes faisaient de la tapisserie, ce qui est maintenant interdit par la morale virile, mais disons donc un substitut du tricot, de la tapisserie, qui consisterait à copier même des images, même dans un dictionnaire. Je ne le fais pas très souvent, ça dépend des périodes, mais j'en ai toujours une très grande joie. C'est comme une sorte de... C'est ma façon à moi de faire du sport.
Quel sportif. Alors, je ne connaissais pas ce discours, mais c'est vrai qu'il y a un plaisir physique à dessiner, qu'on soit dessinateur professionnel ou pas, bon ou mauvais, ça ne va rien dire. Et moi, je pousse tout le monde à dessiner. C'est d'un repos mental incroyable. Et tout le monde devrait avoir un petit carnet de croquis, au lieu de tripoter son téléphone, dessiner, ça c'est certain.
Sur quoi vous travaillez en ce moment, Rebecca d'Outre-mer ?
Je travaille sur un très gros, lourd et passionnant projet, l'illustration des souris et des hommes de Steinbeck.
Magnifique.
Et oui, ça va être, c'est génial. Je m'amuse beaucoup.
Avec des souris et des lapins, des souris voilà. Dans les poches.
J'ai encore des poils partout, mais ouais. mais c'est pas que ça évidemment. Et c'est un gros projet. De l'illustration du texte intégral. L'idée est de garder le texte intégral. On n'enlève pas une virgule, mais l'objet va ressembler à un roman... Enfin, ça va être très particulier, un peu un roman graphique. Si vous voulez, je vous apporte un bout de maquette.
Ah oui, je veux bien.
Je vous laisse feuilleter. Je voudrais que l'objet soit avant tout un livre d'images. C'en le est. Texte est extrêmement dilué dans le livre.
Des paysages.
Il y a des styles différents. Ouais. Il y a
du noir et du blanc.
Selon le texte, il y a beaucoup de dialogues dans ce livre. C'est très théâtral. Donc il y a des images qui ressemblent plus à des pages de BD. Puis ce que j'appelle des photos, puis des scènes d'exposition du lieu de chaque chapitre,
des
puis
dessins.
Des fausses pubs, puis des dessins, puis des gribouillis, puis des voilà. Donc là, c'est les premières choses.
Et vos personnages ont toujours des têtes longues, allongées,
oui,
un
j'ai
peu comme ça.
Ça voilà. Bon après là, vous avez apporté aussi des crayonnés, la recherche de tous les personnages. On est vraiment dans du théâtre, dans les souris des hommes. Mais évidemment, après, avec toute le poids de l'histoire et la dureté de la vie de ces hommes et de l'époque. Et puis tout le folklore de ces années 30. Et là, il y a des références photographiques qui sont géniales. Là. Les années 30 aux États-Unis, Walker Evans, tout
bah
ça.
Oui, c'est ça.
J'ai toutes ces images en tête, donc je travaille vraiment dans cet univers-là.
Et vous faites aussi bien là des paysages en couleur, plutôt en noir et blanc,
il y a
ou
de
alors
tout.
Des crayonnés.
Bah là, vous voyez les premières esquisses, mais ça va être donc un livre de plus de 400 pages et 210 doubles planches à faire. Donc ça va être très très riche, ça va être un livre plein comme un œuf. C'est le but. Ouais.
Qu'est-ce que vous m'avez apporté d'autre encore comme trésor? Parce qu'il y en a plein la table, alors c'est assez...
Là j'ai un autre carnet de croquis, j'en ai plein. Donc c'était pour vous montrer comment la naissance d'un livre aussi. Vous voyez ce qu'on appelle des chemins de fer en illustration, c'est le storyboard en fait. Et c'est les toutes petites vignettes des pages des livres
des croquis.
Illustrés et... Donc, c'est des vieux carnets où il y a beaucoup de collages et tout ça, ça colle.
Des images
que
vous avez trouvées.
Moi, j'aime bien la photo. Donc, tout est mélangé. Enfin, bref, des notes. Il y a des carnets où je note mes idées de mes prochains bouquins. Je vous avais apporté aussi des originaux de livres midi-pile. Il y a une telle masse. Mais si vous saviez le nombre de dessins que j'entasse, c'est effroyable.
Et là, il y a encore un lapin.
Ben là, c'est Jacominus avec son chien, qui a une tête d'homme.
Eh oui.
Eh oui. Donc, il y a des croquis de vacances, des... les carnets de croquis, c'est toujours très agréable à feuilleter. Mais c'est comme ça que les souris des hommes vont fonctionner un peu aussi, comme un livre plein de collages, de petites choses. On va rentrer dans ce roman un peu comme dans un carnet de croquis.
On a envie de regarder, de prendre le temps de regarder Rebecca d'Outremer. On va prendre des photos, si vous acceptez.
D'accord.
Et on les mettra sur le site de l'émission pour que les auditeurs puissent voir.
C'est mieux. Vous verrez les matières et les couleurs et les papiers.
Merci Rebecca d'Outremer d'avoir passé cette heure avec nous.
Mais merci de m'avoir invitée.
Votre dernier livre et Jacominus sont publiés aux éditions Sarbacane. Et le dernier Midi-Pile, le livre creusé dans l'épaisseur. C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combes, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka. Et à la technique aujourd'hui, c'était Loïc Frapsos. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur franceinter.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end.